Avant d'entrer dans ce message que j'ai préparé, j'ai une question à vous poser. Pourquoi la plupart d'entre vous, quand nous sommes dans la louange et qu'à un moment quelqu'un prend la parole, pourquoi vous asseyez-vous ? Je laisse ça à votre réflexion. C'est ce qui se passe dans le monde visible parle aussi de ce qui se passe dans le monde invisible. Ça parle aussi de ce qui se passe dans nos cœurs. Et quand, moi, ce que j'ai senti dans la louange, quand à un moment j'ai pris la parole et que la plupart se sont assis, c'est venu couper la louange. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, je vous invite vraiment à être esprit, âme et corps dans ce que l'on vit avec le Seigneur, dans la louange. Ça passe aussi par nos corps. Hein. Quand je vous disais « lever les yeux au ciel », quand on prie en levant les yeux au ciel, ça veut dire quelque chose qui ne veut pas dire la même chose que lorsqu'on prie les yeux fermés, par exemple. Il n'y a rien de bon ou de mauvais. Mais voilà, ça dit quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui est systématique et je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. D'accord ? Alors maintenant, voilà, vous laissez le Seigneur travailler dans vos cœurs par rapport à ça. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de l'Église. L'Église sur laquelle on entend souvent des remarques, que ce soit de ceux qui sont en dehors de l'Église, que ce soit de ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. L'Église devrait être comme ci, l'Église elle devrait être comme ça, l'Église elle devrait être plus branchée, plus fun, plus cool, pour attirer plus de jeunes, ou au contraire, l'Église elle devrait être, elle est trop conciliante, elle est pas assez ferme. Voilà, enfin différentes remarques que l'on peut entendre sur l'Église, sur ce que l'Église devrait être. Et j'ai remarqué, quelque temps en arrière, que finalement, je me laissais influencer par ce genre de paroles en m'évertuant dans les messages à être quelque part plus fun, plus jeune, plus accessible. Alors, c'est bon de se mettre à la portée. Il faut se rendre accessible pour que l'Évangile soit prêché au mieux. On doit être en phase avec le monde dans lequel on vit. Hein. Mais si on cherche à plaire, ou si c'est pour chercher à séduire, pour attirer les foules, parce qu'on considère que l'Église n'est pas tout à fait attrayante, dans quelle mesure c'est juste ? C'est vrai. Et dans quelle mesure on trahit ce que nous sommes profondément, ce que l'Église est profondément ? Alors qu'est-ce que l'Église ? Comment savoir ce qu'est l'Église profondément ? C'est en revenant à la parole. Qu'est-ce que l'Église selon la parole et quelle est la mission de l'Église selon la parole ? Quel est le rôle de l'Église selon la parole ? Alors Paul parle beaucoup de l'Église. Hein, il vient dire que c'est une famille, que c'est un corps, un olivier, un champ cultivé, un nouveau temple, un édifice, etc. Il y a plein d'images de l'Église qui disent différentes facettes de l'Église. Mais ce matin, je souhaiterais revenir aux paroles de celui qui a parlé le moins de l'Église dans la Bible, mais qui est le fondateur de l'Église, Jésus-Christ. Parce que, hein, on est d'accord, Jésus n'a pas fondé une religion. Il a fondé un peuple. Il a fondé cette église dont il ne va parler que deux fois, seulement dans l'évangile de Matthieu. Et la première fois qu'il en parle, justement, il vient dire clairement ce qu'est l'église et quelle est sa mission. Et cette parole, on la trouve dans Matthieu, au chapitre 16, au verset 18 à 19. « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » qu'est-ce que Jésus est en train de dire de l'Église ? Quand il dit ça, il dit que fondamentalement, l'Église, c'est une puissance spirituelle. L'Église est une puissance spirituelle. C'est ce qui est le fond, j'ai envie de dire, de l'être de l'Église, de l'identité de l'Église. Alors, le contexte dans lequel Jésus dit cette parole sur l'Église, la première fois qu'il parle de l'Église, c'est, quand on va vous lire au début du chapitre 16, les pharisiens, les autorités religieuses sont venus le trouver pour lui demander un signe. Signe qu'il n'a pas donné parce que, en disant que c'est lui-même le signe. Sauf que ce signe qu'il est, le Messie, l'envoyé de Dieu, ils ne le reçoivent pas. Du coup, il va demander à ses disciples, mais qui dit-on que je suis ? Et puis surtout, vous, qui dites-vous que je suis ? Et là, de la bouche de Pierre, tous les disciples vont dire, enfin c'est Pierre qui va le dire, mais il est porte-parole des disciples, tu es le Messie, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, on le voit au début de cette parole, quand il s'adresse à Pierre, Jésus fait bien de souligner, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Cette pierre, c'est lui. Ça veut dire que, ça c'est le premier point, l'Église, c'est une puissance spirituelle qui est bâtie sur Jésus-Christ. Pierre, c'est le grec Petros, et ça signifie un rocher, un roc, une pierre qui peut être plus ou moins grosse. Mais Petra, ce qui désigne en fait Jésus-Christ, c'est un rocher montagneux, c'est une chaîne de rochers. C'est une falaise. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Jésus est en train de dire là, juste avant, c'est le rocher de scandale, par exemple, qu'on trouve en Ésaïe 8,14, quand il dit que le Messie sera un rocher de scandale, sur lequel les contradicteurs, ceux qui ne seront pas d'accord, ou ça va bouleverser, en fait, vont s'écraser. Et aussi, on retrouve un moment dans 1 Corinthiens 10 que Paul qui dit que le rocher auquel buvaient les Hébreux qui, dans le désert, en sortant d'Égypte, c'était une image de Jésus-Christ. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Jésus est en train de dire « Tu es Pierre ». Ça veut dire quoi ? Tu es Pierre, il donne son nom humain. Tu es Pierre, tu es humain, tu es faible. Tu es limité et tu es pécheur. Tandis que moi, la pierre que je suis homme et je suis Dieu. Et la puissance spirituelle qu'est l'Église, elle est fondée sur moi. Elle ne peut pas être fondée sur les hommes. La puissance de l'Église n'est pas fondée sur de l'humain. C'est-à-dire que ce qui va faire que l'Église sera toujours plus vivante. Ce qui va faire que... Parce que par exemple, quand je vous parlais de ces messages que je m'évertuais à faire de manière à plaire, c'est aussi étant sensible au fait de voir qu'il y a moins de jeunes dans notre Église. Il y a moins de familles aussi qu'il fut un temps, il y a quelques années en arrière. Et voilà, tout ça, ça me préoccupait. Alors comment les attirer de nouveau ? C'était un petit peu ça. Mais ce que Jésus-Christ nous dit ici, c'est que toutes les stratégies, toutes les idées, toutes les réflexions qu'on va pouvoir avoir, aussi bonnes soient-elles, et bien sûr c'est juste de le faire parce que la sagesse de Dieu, elle peut s'exprimer au travers de cela. Mais tout cela, ce n'est pas ça qui fonde la puissance de l'Église. Ce n'est pas ça qui va faire que l'Église va avoir un impact sur ce monde. Ce qui va faire que l'Église va avoir un impact sur ce monde, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'habite. C'est la place que je vais donner à Jésus-Christ. C'est la qualité de relation que je vais avoir avec lui, que nous allons tous avoir, les uns les autres et tous ensemble. C'est la place que nous allons lui donner dans les différents endroits de nos vies et dans les différents endroits de la vie de cette Église. C'est cela que nous dit Jésus, la puissance spirituelle de l'Église. Elle est bâtie sur Jésus-Christ. Elle repose sur... sur Jésus-Christ, et c'est la clé de la puissance spirituelle. Et c'est pour ça que nous avons à renoncer à nous-mêmes et à tout ce qui est charnel. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que l'Église est une véritable puissance spirituelle ? L'Église est une véritable puissance spirituelle parce que Jésus-Christ lui donne sa puissance spirituelle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est cela, les clés du royaume des cieux. Je te donnerai la puissance qui est la mienne. Et c'est cela qui va faire que l'Église va avoir un impact. C'est ce qu'il dit à Pierre qui est le début humain de l'Église. Donc c'est ce qu'il dit à l'Église. Ces clés, elles sont pour l'Église, les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire que Jésus fait de l'Église la gardienne du royaume des cieux. Parce que qu'est-ce que sont ces clés ? C'est l'Église qui ouvre ou qui ferme. Une clé, dans la Bible, ça symbolise l'autorité que l'on a sur un territoire et le pouvoir d'y donner accès ou non. Par exemple, à un moment, Jésus dit aux docteurs de la loi qu'ils ont la clé de la connaissance de la loi. Et donc, ils peuvent y faire entrer le peuple ou non. Le peuple d'ailleurs qui n'était pas lettré. Donc ça dépend d'eux. Ils ont ce pouvoir. Quand on vous donne la clé d'une maison que vous achetez, et même d'une maison que vous louez, vous allez avoir autorité sur ce territoire. Vous allez connaître les différents endroits de cette maison, les moindres recoins de toutes les pièces, et vous allez faire visiter cette maison selon ce qui vous semblera bon. Il y a des pièces que vous ferez visiter, d'autres non. Vous avez autorité et vous donnerez accès selon ce qui vous semble juste. Alors, ces clés, il y en a plusieurs. Donc ça veut dire que Jésus, il ne donne pas qu'une seule clé. Jésus, il donne plusieurs clés. Et nous allons voir quelles sont exactement ces clés. Alors, moi, j'en ai compté trois. C'est-à-dire, quelles sont ces clés en allant voir la parole ? Moi, j'en ai trouvé trois. Peut-être qu'il y en a plus. Sans doute, je ne sais pas. Mais voilà, quelles sont ces clés ? La première clé, nous la trouvons dans l'expression même « Je donnerai les clés du royaume des cieux ». C'est-à-dire que, comme je le disais avant, l'Église, elle a le pouvoir de donner accès au royaume des cieux ou non. Ça nous parle de l'annonce de l'Évangile et de l'enseignement de la parole. L'Église, c'est elle, en fait, quand nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous ouvrons la porte du royaume des cieux à ceux qui l'entendent, qui sont libres d'y entrer ou non. Mais c'est ce que nous faisons. Spirituellement, c'est ça qui se passe. Nous ouvrons la porte du royaume des cieux. C'est puissant. Et c'est là justement que nous avons à veiller à être en phase avec le monde qui nous entoure pour permettre cet accès à l'Évangile. Il faut que nous soyons sensibles à ce qui se passe autour de nous et comment rejoindre les personnes, comment les rejoindre au plus près de leurs préoccupations. Mais toutefois, sans être non plus du monde. Parce que justement, quand nous donnons accès au royaume des cieux, nous donnons accès à la parole. Nous donnons accès à ce que dit la parole. Et ce que dit la parole, c'est contraire à l'esprit du monde. Et comment finalement, que ce soit quand on annonce l'Évangile ou quand on parle de toute la parole à quelqu'un qui est entré ou à quelqu'un qui n'est pas encore entré, comment est-ce que ça se fait ? Comment ce pouvoir, comment cette clé que nous donne Jésus, comment ce pouvoir il opère ? Connaître, dans la Bible, ça parle d'avoir des relations intimes. C'est à partir de notre relation intime avec la parole que ce pouvoir fonctionne. C'est à partir de la place que l'on va donner à la parole dans notre vie. C'est dans la mesure où on va laisser cette parole travailler à l'intérieur de nous et changer ce que je fais, ce que je pense, ce que je suis. C'est à partir du moment où cela, ça travaille en moi, où cette parole, elle travaille en moi, c'est comme cela que je vais donner accès au royaume des cieux, à la parole. C'est comme cela que des personnes vont être touchées parce qu'elles voient le changement dans nos cœurs, dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Elles voient le changement. C'est pour ça que c'est impératif de laisser la parole travailler en nous. De diverses manières. Elle le fait de diverses manières. Dieu, il utilise vraiment différentes manières. Il peut utiliser la parole, bien sûr, directement, quand on vient méditer la Bible. Il peut utiliser des frères et des sœurs, des autres hommes, des autres femmes. Il faut savoir écouter ce que le Seigneur veut nous dire, parce que là, ça va venir nous changer. En tout cas, c'est ainsi que fonctionne ce premier pouvoir donné à l'Église et qui fait qu'il est une puissance spirituelle. La deuxième clé, nous la trouvons dans cette parole. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Cette parole, Jésus la répète une deuxième fois. Et justement, il la répète après avoir parlé une deuxième fois de l'Église. Donc il rappelle que ce rôle de l'Église. Et en fait, cette parole, c'est quoi ? Cette parole, c'est une expression rabbinique qui est courante, qui signifiait le pouvoir d'interdire et de permettre. Interdire ce qui n'est pas conforme à la loi et permettre ce qui est conforme à la loi. Et par exemple, les pharisiens, eux, ils revendiquaient ce pouvoir de dire ce qui était juste, ce qui n'était pas, en y ajoutant leur tradition. Et d'ailleurs, Jésus vient leur dire, mais vous mettez des fardeaux pesants sur les autres et en plus, vous ne levez même pas le petit doigt pour les aider. En fait, cette parole, ça parle d'un jugement légal. D'un jugement légal, dans la tradition juive, on parle de la halara. En fait, ça parle de quoi ? C'est tout le système légal qui va codifier, qui va réglementer les relations sociales, les relations politiques, religieuses, etc. Tout, toute la vie, à partir de ce que dit la loi de Moïse. Et en fait, quand Jésus, il donne cette deuxième clé à Pierre, c'est-à-dire à l'Église, il fait de l'Église, non seulement la gardienne du royaume des cieux, mais il la fait aussi juge. Juge de ce qui se fait selon la parole, de ce que l'on a le droit de faire et de ce que l'on n'a pas le droit de faire. Et c'est pour cela d'ailleurs que Jésus y rappelle cette deuxième clé, une fois qu'il a parlé de la discipline exercée par l'Église, dans le cas où quelqu'un qui ne reconnaît pas son péché. Quelqu'un ne reconnaît pas le tort qu'il a fait à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre vient s'adresser à l'Église après être allé voir d'abord la personne seule, mais elle n'a pas reconnu le tort qu'elle lui a fait. Après être revenu voir cette personne avec une autre personne et ensuite avec deux autres personnes, et à chaque fois elle n'a pas reconnu. Et jusqu'à venir réclamer justice devant l'Église pour obtenir justice. C'est finalement cette deuxième clé, c'est le pouvoir que l'Église, c'est le rôle que l'Église a de traiter le péché et le pécheur. Sachant que c'est fait dans quel esprit ? C'est fait en visant le pardon et la réconciliation et la paix. C'est à cela que sert la discipline, on n'aime pas beaucoup ce mot, mais la discipline, elle vise ça. Quand on reprend des personnes, quand dans l'Église, il y a des personnes qui sont reprises, c'est ça que l'on vise au fond. C'est le pardon, la réconciliation, c'est la paix et qui va permettre l'unité dans l'Église. C'est important. Ça veut dire que l'Église sera véritablement une puissance spirituelle à partir du moment où elle exerce cette discipline. Et cette discipline, elle ne commence pas seulement au moment où on vient trouver l'Église, c'est-à-dire les dirigeants de l'Église. Elle commence dès le début de nos relations, où on essaye de se parler directement quand il y a quelque chose qui cloche, où il y a eu un problème entre nous. D'abord au un par un. Le Seigneur souhaite que d'abord ça se règle là, dans l'idéal. Ça fait aussi de l'Église une puissance spirituelle. Bien sûr, c'est Dieu qui pardonne finalement les péchés. Ce n'est pas l'Église qui pardonne les péchés. Ça, c'est la doctrine ou le dogme de l'absolution, c'est faux. Mais l'exercice d'une telle discipline va favoriser le pardon, la réconciliation et la paix. C'est ça le but. L'Église, elle sera puissante quand elle sera dans une discipline ni trop dure, ni trop molle, mais une discipline qui est juste parce qu'elle est compréhensive avec le pécheur, mais intransigeante avec le péché. Alors ça, c'est la théorie. Hein? Et après, il y a la pratique. Et la pratique, ça nous vient nous rencontrer dans la pâte humaine que l'on est, avec tout ce qu'il peut y avoir de juste et tout ce qu'il peut y avoir d'injuste en nous. Et donc c'est un travail. Mais c'est un travail dans lequel l'Esprit de Dieu nous conduit. Et si nous voulons vraiment être une Église puissante spirituellement, ça passe par là. Et enfin, une troisième clé. Cette troisième clé, nous la trouvons dans l'expression « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur l'Église » et sur ce que la parole dit des verbes « lier » et « délier », sur les significations de ces verbes et ce sur quoi leur action porte. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui peut être lié, c'est-à-dire attaché, enchaîné, et qu'est-ce qui peut être délié, c'est-à-dire détaché, mais aussi supprimé, détruit, c'est ce que veut le dire ce verbe, à la fois quelque chose qui est sur la terre et quelque chose qui est dans le ciel, à la fois quelque chose qui est dans le monde visible et quelque chose qui est dans le monde spirituel. Dans la Bible, le séjour des morts, c'est une puissance spirituelle. C'est une puissance spirituelle qui réclame insatiablement les âmes des morts pour qu'elles n'aillent pas vers la vie. Et le seul moyen, finalement, de ne pas être pris par le séjour des morts qui veut aspirer les personnes, le seul moyen, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Et donc, tout cela, ça nous dit que ce qui peut être lié, ce sont les puissances spirituelles qui sont à l'origine de choses qui peuvent être problématiques dans nos vies. Et ce sont les liens spirituels qu'elles mettent sur nos vies. C'est tout ce qui concerne les œuvres du diable, c'est tout ce qui concerne les liens de la mort. C'est tout ce qui concerne les œuvres du diable et les liens de la mort, mais nous avons la puissance spirituelle là-dessus, car Jésus-Christ nous a donné sa puissance spirituelle. Jésus est ressuscité, et en étant ressuscité, il a été délié des liens de la mort par le Père. Ça, c'est ce qui est dit dans le livre des Actes. Et il a détruit, c'est la même, c'est délié, il a détruit les œuvres du diable. Il a lié l'homme fort. L'homme fort, c'est Satan. Quand vous allez lire, l'homme fort, c'est Satan. Et c'est toutes les puissances spirituelles, on va dire, qui sont en leadership. C'est cela qui fait que l'Église a la puissance spirituelle de l'emporter sur la mort, sur les œuvres du diable, de délier ses œuvres sur nos vies et de lier les puissances spirituelles ennemies de Dieu qui sont à l'origine de ces liens dans nos vies, à partir du moment où nous exerçons ce pouvoir et même cette responsabilité. C'est une responsabilité. c'est une responsabilité. On est appelé à exercer cette troisième clé, ce pouvoir. Le pouvoir de l'Église, il est spirituel. Il n'est pas charnel. Le pouvoir de l'Église, il est spirituel. L'Église, elle n'est pas appelée à prendre les armes physiques, comme elle l'a fait en prenant l'épée dans l'acquisition. L'Église, elle est appelée à mener une guerre spirituelle. Alors, c'est pas faux d'entrer forcément dans des combats politiques, voilà. Mais c'est faux à partir du moment où, quand on est chrétien, on n'est pas avant tout dans l'exercice de cette puissance spirituelle. Parce qu'une guerre spirituelle, elle est là, il y en a une. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire. Il y a une influence démoniaque dans tout ce que nous vivons. Dans tout ce que nous vivons, il y a une influence démoniaque. Ça se bagarre dans le ciel, et nous, parfois, on veut fermer les yeux, mais c'est là. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans l'excès en considérant que tous nos problèmes ne sont que spirituels, et c'est la prière qui va tout résoudre. De même, il ne s'agit pas de tomber dans l'excès inverse, que c'est nous qui sommes responsables des problèmes que nous avons, du fait de notre histoire, etc., ou ce sont les autres. Mais il s'agit de considérer qu'il y a une influence démoniaque dans tout ce qu'on vit, et qu'il y a une part de la problématique que l'on vit qui ne pourra être réglée que comme ça, qui ne pourra être réglée que par le combat spirituel. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui peuvent en témoigner ici, de moments où on s'est mis à prier dans ce sens-là. Je crois que c'est quelque chose qui se vit de plus en plus, et je pense que c'est quelque chose dans lequel nous avons à persévérer pour être justement cette puissance spirituelle. De lier les puissances et de délier leurs œuvres, ces liens spirituels qui sont en fait des liens légaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans nos vies, nous avons un écart par rapport à la parole, et nous en avons, eh ben, ça donne un droit à ces liens spirituels d'être dans nos vies. Et ça va être des jougs sur nos vies, qui fonctionnent comme des lois dans nos vies. Et par exemple, à partir de paroles que l'on a pu poser sur nous, « Tu n'arriveras jamais à rien !» Et puis c'est tout le temps les échecs, ou des paroles qu'on a pu poser nous-mêmes. Je ne serai jamais comme mon père, je ne serai jamais comme ma mère, ou alors je serai entièrement comme lui, ou entièrement comme elle, comme si c'était des dieux. Je ne pardonnerai jamais ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait. Tout ça, ce sont des lois, ce sont des lois que nous posons sur nos vies. Et ce sont des liens spirituels. Ça va être, finalement, toutes ces choses que nous n'arrivons pas à lâcher, que nous retenons, que ce soit des choses auxquelles on est attaché, comme, je sais pas, une activité, un objet, des personnes, des relations. Et on se dit que si on perd cela, si on perd ces relations, ces personnes, ces choses-là, c'est comme si notre vie allait s'arrêter. On perd notre sécurité. Quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, c'est qu'il y a un lien spirituel. Quand ça nous perturbe au point de nous faire perdre fondamentalement notre sécurité, on met notre vie dedans, on met notre salut dedans, c'est qu'il y a un lien spirituel. Alors voilà. Voilà l'Église que nous sommes appelés à être. Voilà ce qu'est l'Église fondamentalement. L'Église fondamentalement est une puissance spirituelle. L'Église est une puissance spirituelle, c'est ce que nous sommes appelés à être, tant sur le plan local que sur le plan de l'Église avec un grand E. Une puissance spirituelle qui exerce, qui utilise ses clés que Jésus a données, ces clés qui ouvrent l'accès au royaume des cieux, ces clés qui sont l'annonce de l'évangile et l'enseignement de la parole, ces clés qui sont cette discipline qui commence déjà au niveau de nos relations ou un par un, pour traiter le péché et le pécheur, comme Jésus lui le voit, selon son enseignement. Et cette autre clé aussi qui est la destruction des œuvres du diable et la neutralisation des puissances ennemies qui sont à l'origine de ces choses. C'est cela que nous avons cherché à être. C'est cela que nous sommes. Tout en étant dans les formes qui vont permettre de toucher ce monde, mais sans trahir ce que nous sommes. Et nous sommes cette puissance spirituelle. Amen. Amen. Et qu'on puisse se placer devant le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce que ta parole nous dit de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Et c'est peut-être beaucoup de choses que tu nous dis ce matin. Je te remercie d'ouvrir nos cœurs à le recevoir, Seigneur. C'est peut-être un rappel pour certains, c'est peut-être une découverte pour d'autres. Je te prie, Seigneur, que ce que tu dis là de fondamental, maintenant, se pose dans nos cœurs. Que nous cherchions à être cette puissance spirituelle que nous sommes, que tu fais de nous. Parce que c'est notre rôle ici. C'est notre rôle ici. Je te remercie, Seigneur, vraiment de convaincre nos cœurs. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc nos cœurs. Merci de convaincre nos cœurs et de nous montrer dans nos vies dans quelle mesure nous sommes alignés avec ce que tu nous dis sur l'Église ce matin. Amen.